Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, second volet de notre série sur l'extractivisme, des mines comme s'il en pleuvait. Imaginez un paysage désertique criblé de trous et de cratères. La Lune ? Pas du tout. La France. Amine Diaye, vous faites partie du collectif Doardidoul. Qu'est-ce que ça signifie, ça ?
Alors, Doardidoul, c'est une terre sans trous en breton. Ça symbolise un peu notre résistance face à ces trous que les compagnies vignières veulent faire par ici.
Pourquoi est-ce qu'ils veulent creuser ici ? On est dans la région de Guingamp, il y a des prés, il y a la mer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à trouver dans les entrailles de cette Bretagne ?
Alors c'est ça qui est encore plus choquant pour nous. C'est une région agricole où il y a beaucoup d'agrotourisme aussi. C'est un site remarquable, le site de Lochinvel, là où ils veulent créer cette mine. Et c'est d'autant plus choquant de dire qu'en fait, leur or ou leur tungstène qu'ils cherchent a plus de valeur que cette agriculture, ce qui nous nourrit. Et voilà, ce lien social-là qui a été bâti depuis des années par les agriculteurs, par le tourisme, cet attrait de la mer.
Comment est-ce que vous avez été informé de ce projet ?
Alors, comme tous les projets miniers là qu'il y a actuellement en France, effectivement, c'est fait en catimini. Ils surfent beaucoup sur l'incrédulité des gens. On se demande, en 2015, réouvrir des mines, on pense à Germinal automatiquement, les gens sont incrédules. Et nous, le permis de Lochinvel, ils ont déposé, ils ont essayé de passer en force. Le préfet a envoyé un CD à toutes les communes, les 25 communes qui sont sur le permis de Lochinvel, qui couvrent 336 km² quand même. Et ils ont envoyé un CD d'explication que voilà, il y a un projet minier. Fallait vite répondre d'ici un mois. C'était pendant le printemps 2014. Il y avait beaucoup d'équipes municipales qui venaient d'être élues, donc qui prenaient leur marque et ils ont voulu passer en force. Ça a failli marcher. On a eu la chance. Il y a quelqu'un qui a entendu parler de ces projets miniers du collectif Jean Bacquer et qui a alerté d'autres collectifs, notamment le collectif Notre-Dame-des-Landes local ici. Et voilà, donc c'est parti comme ça. On a cherché cette information-là, qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y avait zéro information, tout devait passer en catimini, le code minier était en train d'être réformé en douce. Et il y avait une pression aussi du préfet sur les élus pour que tout se signe très vite. Et donc, il a fallu qu'un collectif citoyen se monte parce qu'il y a eu un peu de défiance vis-à-vis des élus. Et puis, on commençait à douter. Il y a beaucoup d'élus PS, effectivement. Et puis, donc, je pense qu'ils ont du mal à se rebeller contre le gouvernement. Et puis, donc, qui ont voulu accepter ça.
Ils étaient prêts à signer.
Beaucoup de communes avaient donné leur accord. Mais c'est peut-être pour plein de raisons. Il y avait beaucoup, on leur avait fait miroiter le mirage à l'emploi, tout ce genre de choses-là, mais un tout petit peu plus quand on est allé creuser. Eux-mêmes, ils sont allés demander finalement ces infos-là à Variscan Mine, la compagnie qui a demandé le permis. Et Variscan leur a complètement fait comprendre que il y aurait très peu de retombées au niveau de l'emploi.
Ah, ils ont été sincères.
En fait, pas forcément, je pense qu'on les a... Ils ont pas mal communiqué dessus et puis les chiffres variaient de 50 à 300 emplois sur une période de 6 mois. Et même devant des maires, ils ont expliqué que ce serait une compagnie sud-africaine qui viendrait probablement avec du personnel extrêmement spécialisé. Puis de toute façon, quand bien même ça créerait des emplois, il n'y aurait pas ces emplois-là directs ici. Il n'y a plus d'industrie minière en France. Depuis la dernière mine qui a fermé, c'était Salsigne en 2004. Il n'y a plus, on ne forme plus des gens dessus, quoi. Et puis, de toute façon, il y a une autre chose aussi. Il faut sortir de ce schéma coûts environnementaux versus bénéfices économiques. Si on rentre dedans, on aura toujours tort. Et il y a beaucoup de collectifs qui font, en tout cas, ou de gens autour de nous qui réfléchissent comme ça.
Qui refusent, en fait, d'entrer dans cette espèce de marchandage en disant que la vie n'est pas à troquer contre... de l'or ou du tungstène ou quoi que ce soit.
Exactement. Et comment, en fait, Le gouvernement en 2015, bon, moi je pense que c'est des plans, c'était depuis bien avant ça. Il y a Arnaud Montebourg qui était à fond dedans. Après, Macron, dans cet ultralibéralisme, continue et le fait même encore mieux qu'Arnaud Montebourg. Cette idée vraiment de dérouler le tapis à ces compagnies minières pour venir vraiment piller ce qu'il y a de pillable. Alors, ils nous disent qu'il faut une sécurité, une certaine indépendance par rapport aux métaux, l'approvisionnement aux métaux pour la France, alors qu'ils donnent le permis à des sociétés avec des capitaux étrangers. Là, en l'occurrence, une société australienne.
C'est vrai qu'on a l'impression d'aller de contradiction en contradiction. Comment est-ce qu'en quelques mois, Amine Diaye, au sein de votre collectif, vous avez réussi à accumuler toutes ces informations? Vous avez parlé de l'ouverture aux différents collectifs, ça a été important ça, le fait qu'il y ait déjà des collectifs.
Exactement, ouais. En fait, au début, effectivement, nous, on s'est sentis vraiment seuls, donc on allait beaucoup sur Internet, essayer de voir, de contacter les autres collectifs qui étaient beaucoup plus avancés que nous.
Lesquels, par exemple?
Bah, ceux de la Creuse, Top 1023. Et finalement, au mois de mai dernier, on les a invités, ils sont venus, on a fait une journée d'information à Billy-Lanterre. On a invité aussi d'autres chercheurs comme André Picot, et on a fait une journée d'information, justement. Ce que les maires ne faisaient pas, finalement, le collectif a pris dessus pour le faire. Donc eux, ils nous ont expliqué par tout le chemin par lequel vous étiez passés. Et puis, effectivement, nous, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et c'était bien aussi de voir que la résistance se faisait aussi dans les autres endroits de France. Alors, ici au niveau des Côtes d'Armor, donc il y a trois permis. Celui de Sylfiac, de Merleillac et puis celui de Locanvel. Donc on est en contact, on a un site web en commun.
C'est le collectif Mine de Rien ?
Mine de Rien. Et puis il y a un nouveau collectif qui s'est monté sur celui de Merleillac où ils sont beaucoup plus avancés. Par contre, le permis a été octroyé, donc ça fait plus d'un an.
Ça a été octroyé, donc c'est fichu.
C'est pas fichu, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé et ils ont même fait des techniques qui sont totalement nouvelles en France. Des techniques de télédétection, de détection de magnétométrie. C'est des hélicoptères qui roulent à très basse altitude, à 40 mètres, avec des gros anneaux et ils envoient énormément d'ondes et ils quadrillent toute la zone. Et en fait, c'est une technologie qui a été pour la première fois utilisée en France métropolitaine. Ici, donc dans le dossier, il est mentionné nulle part les risques de cette exposition-là. Il y a vraiment un problème de principe de précaution qui aurait pu être opposé directement, quoi. Et je pense que nous, on ne se laissera pas faire dessus. Je pense qu'il y a une réelle opposition. On ne sait pas quel effet ça peut avoir sur les gens qui portent des peacemakers. Mais des gens du collectif qui sont allés sous l'hélico. Ils ont eu leur téléphone portable qui a rebooté, qui s'est arrêté, des ordinateurs qui crachaient quand on est exposé à ces champs magnétiques extrêmement forts. Donc eux, ils ont connu déjà ça. En ce moment, Variscan vient sur les fermes pour prospecter, pour demander est-ce qu'on est d'accord de pénétrer sur leur terrain pour faire des prélèvements. Il y a une résistance qui se fait. Donc c'est pas perdu. C'est octroyé, mais c'est pas perdu.
Ça, c'est donc le permis de Merleillac qui a été octroyé, mais le collectif s'est monté derrière et effectivement, il a du pain sur la planche, comme vous venez de le décrire. Vous, vous en êtes encore à Locanvel, au stade où vous essayez d'empêcher le permis d'être octroyé?
Le permis, il est octroyé aussi. Ah. Bien ici, cet été, enfin au mois de septembre, 14 septembre, ça a été octroyé, décret au journal officiel. Alors nous, entre-temps, on a fait un recours au tribunal administratif. Donc il y a eu près de 120 personnes qui sont mises ensemble, des associations, des collectifs, notamment il y a le Courant des agriculteurs bio, il y a Eau et Rivière Bretagne qui s'est mis avec nous, il y a pas mal d'associations qui sont mises avec le collectif et il y a beaucoup de citoyens aussi. Et donc il y a un recours qui n'est pas suspensif, qu'on a introduit au niveau du tribunal administratif, mais à côté, on utilise toutes sortes de moyens, nous, pour en tout cas s'opposer. On les laissera pas passer, on les laissera pas rentrer sur nos terres. C'est faut pas laisser ce préjudice ça. Une fois qu'ils seront installés, les dégâts seront irréversibles. La zone de Locanvel, il y a cinq rivières, les cinq plus grandes rivières de Bretagne, qui prennent leur source dans cette zone-là. Il y a Jean-François Millepied, un hydrogéologue du collectif, qui nous explique dans ses présentations que s'ils voulaient faire pire, ils auraient pas pu trouver. Aller creuser à l'endroit où, en fait, il y a 5 têtes de bassin versant. C'est une zone remarquable en plus. Dans le massif armoricain, on a un sous-sol qui est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de radon et d'arsenic dans la roche. Même quand on perce pour un forage, pour de l'eau, on prend des risques de libérer ces éléments-là. Et c'est des pollutions qui vont être millénaires. On a déjà connu ça avec Areva, la Kogema, qui avait fait des prospections pour l'uranium dans les années 60. Ils n'ont rien fait pour les reboucher, on paie encore les dégâts.
Au-delà de ces collectifs qui sont mis en place, la Mindiaye, comment est-ce que c'est perçu par la population? Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu, compris? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les gens ont une autre vision des choses? Vous avez évoqué tout à l'heure Germinal, c'est vrai que c'est le versant sombre qui a toujours existé, mais ça n'a jamais empêché cette sorte d'admiration pour les mines.
Oui, effectivement, au niveau... Enfin, nous, ça a été un travail extrêmement soutenu, constant, depuis le début du collectif. On a été discrédité, ces gens, on ne pouvait pas refuser de progrès. Et vos iPhones, vos smartphones, vous n'êtes pas cohérents. Ça existe des mines propres, maintenant, ils ne font plus comme avant. Mais il faut savoir qu'ils sont très forts en communication, ces compagnies minières, effectivement... C'est vrai, depuis les années 60, ils disent « Ah, on ne travaille plus pareil ». Sauf que Salsin, ça a fermé en 2004, quoi. Ça fait juste il y a 10 ans. Et ça continue en Amérique latine. Il continue. Il ne se passe pas un mois sans qu'on nous parle de digue qui a lâché. Et donc, au niveau de la population aussi, je pense que c'est pas... Alors, je ne sais pas si c'est le phénomène pas dans ma cour ou... Réellement, les gens sont conscients maintenant des dangers, quoi. Je pense que ici, on a eu l'aspect de l'eau, qui est très problématique. On a connu des problèmes de nitrate, et je pense que tout le monde essaie de bosser pour améliorer la qualité de l'eau, et on va pas laisser une compagnie minière venir remettre à plat tout ce qui avait été fait. Ils utilisent aussi d'autres techniques des compagnies minières, hein. Comme ils utilisent en Amérique latine, ici, à ce niveau-là, ils peuvent pas tuer des gens, peut-être pour l'instant. Mais par contre, ils utilisent des techniques de barbouze pour nous discréditer. Ils vont taguer des municipalités et puis pour discréditer le collectif. Ils vont dire que le collectif, c'est un ramassis de zadistes ou d'indépendantistes bretons pour discréditer le collectif. Et tout a été utilisé. Et bon, heureusement, on a tenu en expliquant que on n'était pas que zadistes ou indépendantistes, on était plein d'autres choses et que voilà. Donc.
Mais aussi zadistes et indépendantistes, voilà, vous refusez voilà. Pas quand même.
On ne refuse pas. En plus de ça, de notre diversité de personnes, et on ne le refuse pas. Et nous, le collectif même a évolué justement dans cette convergence même de ces luttes-là. On a organisé une manif en commun avec les gens de l'Andivisio contre la centrale à gaz. Et voilà, et on est en contact avec plein d'autres collectifs, Notre-Dame de Néant notamment. Et je pense qu'en fait, c'est important de garder cette convergence et lutte parce qu'elle, c'est exactement les mêmes méthodes, c'est la même logique derrière. Et les mêmes manquements de l'État, c'est exactement cette même poussée libérale. Donc, il est hyper cohérent, je pense, d'organiser la défense à travers cette convergence et lutte-là, moi, je pense.
Thierry Thévenin, vous êtes l'élément surprise dans cette émission. On vous connaît sur les questions de botanique et d'herboristerie. Et vous voilà aussi dans un collectif anti-mine, le collectif Stop Mine 23.
Ben oui, il se trouve, si je suis dans ce collectif-là, c'est parce qu'en fait, je suis voisin de ce projet. Je n'habite pas sur le périmètre où il n'y aura pas, j'espère d'ailleurs, la mine. Mais je suis pas très loin d'ici. Et évidemment, je me sens concerné. Évidemment, moi, je connais... comme Perrine ou d'autres gens là-bas qui font de la culture biologique, qui cueillent, qui font de l'élevage. Et du coup, quand on sait ce qui s'est passé, par exemple, à la mine de Salsigne, dans l'Aude, où aujourd'hui on n'a plus le droit de ramasser de plantes, de champignons, on peut plus cultiver de légumes, on peut plus les vendre sur le marché. Moi, j'ai été tout de suite très inquiet à me dire, on a un atout ici, en creux, c'est notre environnement, il faut à tout prix le préserver. Du coup, donc moi, j'habite à moins d'une heure de route de cet endroit-là. Donc, dès que j'ai appris qu'il y avait ce projet de mine, bah, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je me suis informé. C'est là que j'ai rejoint un collectif. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'y intéressaient aussi. On a essayé surtout au début, peut-être, que les gens parlent, sachent, parce qu'en fait, c'était assez discret. finalement, quand moi j'ai appris, par exemple, personnellement, l'existence de cette autorisation qui avait été délivrée par le préfet, en fait, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle avait été donnée. Finalement, personne n'en parlait, ni dans les journaux, ni dans les médias, ni dans les radios. C'était un petit peu l'omerta, quoi. Donc, je trouvais que la première chose à faire, c'était essayer déjà d'en parler. Donc, je suis allé voir le maire aussi de Lussa, parce que je me suis dit, c'était la commune la plus impactée à l'époque. Le permis était plus grand qu'il est aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut aller voir les élus. Et là, j'ai vu un monsieur qui était finalement assez désemparé, il me répétait au moins trois fois, moi, ça m'a frappé, il m'avait dit « seulement, ça n'existe pas ». Bon, le problème, c'est que ça existe, quoi. Et j'ai bien vu que finalement, on se retrouvait face à un problème où on se sentait un petit peu, déjà pas au courant, un peu mis au pied du mur. Je crois que les élus ont vraiment été mis au pied du mur. On les a convoqués en préfecture, mais pour pratiquement leur demander de dire oui, oui, mais sans qu'ils aient vraiment été avertis réellement avant de venir à la préfecture. Ils n'avaient pas tellement d'informations, pas de dossiers. On leur a simplement un petit peu demandé d'être d'accord, en gros, si j'ai bien compris. Voilà, puis après, moi, j'ai voulu regarder donc l'impact que ça avait sur la flore, parce que mon métier, c'est les plantes, c'est pour faire des tisanes, ça, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Et ce qui m'a tout de suite aussi un peu étonné, j'ai trouvé ça inadmissible et incroyable, c'est la localisation de ce projet de mine. On est pile, là, le dernier permis, donc là où les foreuses risquent d'arriver si on fait rien, c'est juste entre une réserve nationale, naturelle, donc ça c'est pas rien, c'est l'équivalent d'un parc national, ça veut dire que c'est une zone où il y a des plantes et des oiseaux qui sont considérés d'intérêt européen et que l'État français s'engage à protéger. En aval du permis, là où on doit faire, et c'est pas rien non plus, c'est pas juste des petits trous, quoi, c'est des trous qui doivent faire 300 mètres de profondeur dans lesquels on va balancer on sait pas trop quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des travaux, c'est sur les berges d'une rivière, et à l'aval de cette rivière se trouve une zone Natura 2000. Donc voilà, on est en plein dans un territoire vraiment hypersensible, et c'est pas juste des gens, des intellectuels terroristes qui attachent plus d'importance aux petits oiseaux qu'aux emplois. Je veux dire, le fait qu'un environnement comme ça est précieux et préservé, c'est aussi générateur de richesse pour les gens qui vivent là. Ça permet de faire un élevage de qualité, d'avoir des produits de qualité, une agriculture de qualité. C'est à l'heure où notre ministre parle d'agroécologie dans ses discours, je veux dire, c'est des territoires qui sont une grande richesse et ont un grand intérêt. Et donc ça donne envie de le protéger.
Quel risque est-ce que vous voyez pour cette faune, cette flore ?
Si on regarde un petit peu ce qui pousse là, il y a des espèces donc qui poussent dans des milieux qui sont semi-aquatiques. Sur les berges de la rivière, il y a des plantes extrêmement sensibles qui peuvent être sensibles à des pollutions. Donc on sait qu'une mine comme ça utilise des engins qui vont faire des rejets, de lubrifiants, de carburants, qui vont provoquer des tassements des sols. Souvent, c'est des engins qui sont très très lourds, il va falloir faire des chemins d'accès. Alors les soupes qu'on balance dans les trous pour ça, je sais pas trop ce que c'est, mais on peut voilà, en tout cas, c'est des travaux vraiment vraiment importants. Il y a des plantes qui peuvent être très sensibles et disparaître à cause de ça. Il y a une plante par exemple qui est présente sur le site qui est protégée au niveau national en annexe 1, c'est le fluto nageant, l'Uronium natans. C'est une plante qui est protégée au niveau européen par la convention de Berne, qui est une espèce qui est tout à fait prioritaire pour déterminer les habitats Natura 2000. Donc c'est une plante qui a une grande valeur biologique, qui est quasiment en voie d'extinction en Europe. En France, on paye même en tant que citoyen des impôts pour un plan national de sauvegarde de l'espèce. Et dans le même temps, le ministère de l'Industrie et du redressement productif va octroyer un permis qui va mettre directement la seule station du Limousin, en fait. C'est la seule station présente. Et puis bon, c'est un peu le cas d'école, cette plante-là. Mais il y a plusieurs espèces protégées, animales ou végétales, sur ce secteur, et qui seront évidemment directement impactées. Parce que c'est vraiment des espèces de ce milieu particulier, des zones humides. Et puis alors tous les oiseaux, donc, qui sont quand même l'élément vraiment très important de la réserve nationale de l'étang des Landes, qui aujourd'hui quand même draine plus de 10 000 visiteurs par an. C'est une ressource aussi économique locale, puisque souvent on parle d'économie, il faut parler des économies aux élus. Il y a l'agriculture, donc on peut faire une agriculture de qualité, mais il y a aussi un tourisme naturaliste qui se développe dans cette réserve. Et c'est bien évident que les oiseaux, ils sont pas cantonnés dans la réserve, quoi. Ils vont, leur nourriture, leur lieu de pérégrination, ils dépassent la réserve, et c'est évident qu'ils vont être directement impactés par ce projet qui est à quelques centaines de mètres de la réserve.
Très souvent, Thierry Thévenin, on s'aperçoit que ces considérations sur les petits oiseaux et les petites fleurs, ça ne pèse pas lourd, non seulement dans l'esprit des élus ou des entreprises, mais même dans l'esprit des concitoyens qui ne comprennent pas véritablement comment on peut mettre dans la balance d'un côté une plante que personne n'a jamais vue, parce que personne ne s'y intéresse, et les innombrables emplois que ça va générer.
Parce qu'effectivement, les gens ne font pas le lien entre, finalement, un animal ou une plante qui, effectivement, est comme un témoin d'une richesse environnementale. Il est donc le témoin de tout un potentiel d'activité qu'on peut mener dans cet endroit, parce que si elle est là, ça veut dire que cet endroit est encore vivant et préservé et a une grande richesse biologique immédiate ou même à venir. On trouve et on trouvera encore un tas de ressources dans la nature pour fabriquer des remèdes, pour ceci, pour cela. Et le fait qu'un milieu soit riche, c'est vrai que on a du mal à faire comprendre à l'ensemble de la population que c'est vraiment ça la vraie richesse. Parce que quelle richesse on veut tirer de cet endroit? On veut tirer de l'or. Il paraît qu'il y a 4 grammes par tonne. Et cet or, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement aller dormir dans les coffres des banques chinoises. En fait, c'est pour ça qu'on veut tirer de l'or aujourd'hui. Parce que nous, pays riches, avons nos stocks d'or. La France en a une grande partie des réserves d'or mondiales. Les États-Unis, tout le monde en a. Les Chinois, ils n'en ont pas. Donc, on a une richesse qui est vivante. Et ces petites plantes ou ces petits papillons ou ces petits oiseaux sont simplement des témoins de cette grande richesse globale qu'il y a à l'endroit. Et on veut échanger ça pour aller faire dormir de l'or qui sera inaccessible, où personne n'aura accès. On va la prendre de sous terre où elle est inaccessible pour aller la mettre dans un endroit peut-être encore plus inaccessible. Il y a quand même quelque chose qui est stupide.
Et au passage, cette richesse vivante, elle aura disparu vraiment?
Ah ben c'est clair, il y a des choses qui sont à peu près, à l'échelle en tout cas de nos vies, et à grande échelle, qui sont irréversibles. C'est sûr que quand les espèces disparaissent, c'est pas... On dit toujours qu'après l'industriel va réhabiliter le site, il va le remettre dans l'état où il était, c'est faux. C'est archi faux, hein. On fait un peu de cosmétique. La mine d'or du Châtelet, donc, qui est distante de quelques dizaines de kilomètres, on dit que le site a été réhabilité. Moi, c'est quelque chose qui me scandalise à chaque fois. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait un cosmétique merdeux, excusez-moi l'expression, mais on va simplement mettre une espèce de couche de terre sur les terrils, et là-dessus, on va replanter des arbres, et on va dire, ça y est, c'est réhabilité. C'est pas vrai. C'est exactement comme si moi, chez moi, je soulève le tapis pour balayer, puis mettre les poussières en dessous, je remets mon tapis, je dis, c'est propre. Voilà ce qu'on fait. Mais il y a évidemment toute une richesse qui va avoir être disparue, à notre échelle en tout cas, à jamais, quoi.
Mais ce que vous nous dites là, est-ce que vous le dites simplement en réunion publique, ou bien est-ce que vous avez envoyé des courriers au préfet, au ministère de l'Environnement que vous évoquiez tout à l'heure, à l'Europe, puisque vous disiez qu'il y avait des lois européennes qui protégeaient ces plantes?
Alors évidemment, oui, j'ai fait un courrier auprès de la Direction Générale de l'Environnement à Bruxelles, puisque donc il y a des habitats Natura 2000 qui, donc, la France s'est engagée, est engagée pour protéger ces habitats, et là il y a une menace sur ces habitats, donc j'ai écrit à l'Europe, j'ai mis en copie jointe donc le ministère de l'Écologie, Développement Durable, l'ADREAL, le préfet, la mairie, enfin voilà, tous les gens qui peuvent être concernés juridiquement ou politiquement par cette affaire-là, et les réponses sont assez affligeantes. Le ministère donc de l'Écologie et du Développement Durable, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui dépense de l'argent, missionne des gens, et il y a tout un programme d'action pour protéger cette espèce en voie de disparition qui est le phytonageant. Et ben quand moi, simple citoyen, j'envoie une lettre d'alerte pour dire « attention, cette espèce-là est en danger », en fait, c'est le syndrome de la patate chaude. On me dit « ah, mais adressez-vous à votre préfet ». Donc il y a quelque chose qui est absolument incohérent, quoi. D'une main, on veut protéger une espèce, de l'autre, on dit « moi, j'y peux rien, c'est pas mon souci ». Donc je trouve qu'il y a un défaut de mission. La mission de ce ministère, c'est de protéger cette espèce. Et là, je trouve qu'il se trouve en défaut. J'ai eu que 2 réponses, hein, sur les dizaines de destinataires. Donc, il y a une lettre hyper technocratique de l'Union européenne, et cette lettre du directeur de cabinet de Ségolène Royal, que je trouve... alors, on ne sait pas comment on doit la prendre. Hein, monsieur, vous avez bien voulu faire part à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, de votre opposition au projet d'exploration minière dans le cadre du permis exclusif de recherche de Villerange. La ministre a pris bonne note de vos préoccupations. Et elle m'a chargé de transmettre votre courrier au préfet de la Creuse, représentant l'État au niveau local, que vous avez déjà saisi par ailleurs. Soyez assuré que votre démarche fera l'objet de tout l'intérêt qu'elle mérite. Donc je ne sais pas comment je dois prendre ça. Est-ce que ça veut dire le panier? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, mon courrier va faire l'objet de tout l'intérêt qu'il mérite. Voilà. Ce qui m'a un petit peu aussi choqué, bon, moi j'essaie aussi d'alerter des gens qui ont plus de légitimité scientifique que moi. Moi je suis un amateur, je suis naturaliste amateur, botaniste amateur, mais il y a des gens aussi qui sont, alors je veux pas les stigmatiser, mais il y a des gens qui sont aujourd'hui, leur mission c'est de conserver la flore, c'est le conservatoire botanique national, et là on assiste à... Je trouve, ça fait un petit peu peur, c'est un peu dommage, et je veux pas l'acheter la pierre parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais à une attitude qui fait que finalement, c'est de toute façon, c'est déjà trop engagé, on peut plus faire vraiment grand chose. Alors que pour moi, je suis désolé, les foreuses sont pas là, les trous sont pas faits, Les plantes sont encore là, les animaux sont encore là, le triton il est encore là, tout le monde est encore là. Et là, c'est de dire de toute façon, on va plutôt se focaliser sur d'autres projets, parce que malheureusement, c'est un orage de grêle qui s'abat sur la France en ce moment, et ce type de projet, il y en a d'autres en Haute-Vienne qui arrivent, il y en a dans toutes les régions françaises, en Ariège, en Bretagne, il y en a partout. Donc c'est vrai que c'est un peu l'orage de grêle, et je pense qu'effectivement, ces organismes se sentent un petit peu dépassés, et ils essaient de sauver ce qui peut être sauvé. Mais là, par exemple, quand moi j'entends dire « c'est trop tard », non, c'est pas trop tard. Aujourd'hui, on peut aller au bord de cette rivière, on peut y aller ensemble, c'est encore intact. Et je trouve que c'est dommage que ces scientifiques-là se mettent pas plus en avant. Alors je sais qu'ils sont payés par l'État, je sais qu'ils sont pas indépendants comme je peux l'être, mais ça fait un petit peu peur.
Samuel Douard, vous faites partie des opposants au permis dit de Silfiac. Vous habitez dans la région, dans une des communes potentiellement impactées. Pour quelles raisons est-ce que vous vous opposez à ce projet ?
Alors, quand nous avons appris l'existence de ce projet minier, ça m'a fait penser à la Guyane, parce que avant de venir m'installer dans la région, j'ai vécu pas mal de temps en forêt en Guyane française, où j'ai vécu la fin d'une belle époque, où on pouvait trouver des rivières propres, sans traces de passage de l'être humain. Et fin des années 90, on a vu, avec la valeur de l'or qui est explosée en bourse, on a vu arriver des projets miniers qui sont développés, accompagné aussi de l'orpaillage clandestin qui a été vraiment une catastrophe environnementale pour l'ensemble de la Guyane. Je parle aussi de l'intérieur de la Guyane où vivent des autochtones, les Amérindiens guyanais, quoi. Donc en apprenant ce projet, je me suis dit on retourne au 19e siècle parce qu'on redéveloppe des projets d'extraction minière alors qu'on parle de développement durable, d'économie circulaire, de réchauffement climatique, de perte en biodiversité. Et on comprend pas trop les tenants et les aboutissants à qui profiteront le crime de ce genre de projet dans la région.
Quels étaient les effets que vous avez vus en Guyane que vous évoquez ?
Alors en Guyane, ça a été beaucoup l'arrivée massive de chercheurs d'or, qui ont servi beaucoup de boucs émissaires, parce que j'ai participé à des associations, j'ai assisté à des commissions des mines à la préfecture de Cayenne, et on se rendait compte que les orpailleurs qui venaient un peu des pays limitrophes du Brésil, du Suriname, ce sont déjà des personnes qui fuyaient la misère, qui ont cherché un peu du travail pour pouvoir nourrir leur famille, et que ces personnes-là, on les retrouvait sur des sites légaux. Donc il y avait les autorisations légales pour travailler. Et en continuant à fouiller les dossiers, en se posant des questions sur le sujet, on se rendait compte que les orpailleurs légaux étaient pas les derniers à ne pas respecter la législation en place, quoi. C'est-à-dire régularisation des travailleurs, respect du code du travail, respect de la législation sur l'eau, sur l'environnement, et qu'on s'est rendu compte que le bouc émissaire, c'était le travailleur clandestin et que celui-ci avait bon dos.
Donc une gestion sociale assez lamentable, et l'environnement également, puisque vous évoquiez les dernières rivières propres.
On peut voir que le taux de suicide parmi les populations françaises est le plus élevé, c'est en Guyane française, parmi les populations amérindiennes. Ça, on en parle très peu, ou alors des émissions très tard qui passent sur Arte. Et on voit que ces personnes qui vivent dans des villages isolés, voire à 3 à 4 semaines en pirogue, ou alors accessibles qu'en avion, ces personnes ont besoin de chasser et de pêcher. Et vu que la législation travaillait beaucoup jusqu'à encore aujourd'hui avec le mercure, et que c'est pas rentable de travailler proprement, on retrouve du mercure dans les rivières, le petit poisson va manger la petite plante aquatique, et va se faire manger par le gros poisson, et l'amérindien va pêcher le gros poisson pour s'alimenter. Et on voit aujourd'hui de jeunes amérindiens avec des problèmes de saturnisme, la maladie de Minamata comme il y avait au Japon, c'est-à-dire que ils ne grandissent pas correctement, quoi. Et c'est un sujet qui touche énormément les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Il faut savoir que ces populations qui sont isolées en forêt ont besoin de se nourrir de la pêche et de la chasse. Et que les orpailleurs, quand ils s'installent en forêt, font aussi une pression de pêche et de chasse sur leur territoire. Et jusqu'à présent, on n'a pas entendu les Amérindiens. Ils se sont toujours prononcés contre ce développement économique. Et c'est des citoyens de seconde zone.
Luc Carité, vous êtes le maire de la commune de Perret. Vous êtes donc sur le permis dit de Silfiac, qui concerne un certain nombre de communes. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez été informé de ce projet d'exploration minière et comment est-ce que vous avez réagi.
Écoutez, c'est relativement simple. Nous avons reçu effectivement un courrier de la préfecture qui, à titre informatif et par transparence exclusivement, nous a averti que notre commune, avec 13 autres, 9 au total dans le Morbihan et 5 dans les Côtes d'Armor, était dans un permis exclusif de mine qui était demandé par la société Verescade Mine. Nous avons donc pris un avis au niveau du conseil municipal, très défavorable, et d'ailleurs la majorité des communes qui sont touchées ont pris des avis défavorables, mais ceci de toute évidence n'a pas d'effet sur la décision du préfet puis du ministre. Voilà, qui aujourd'hui a accordé ce permis, il y a déjà plusieurs semaines, et nous attendons la possibilité qui nous serait offerte de mener toutes les opérations et manœuvres utiles aussi bien du point de vue de la préfecture que du ministère, afin de faire en sorte que ce permis soit repoussé, annulé, nous ne savons pas exactement.
Vous dites nous attendons, vous n'avez pas encore rencontré ni le préfet ni le ministère ?
Non, alors nous avons eu une rencontre avec le préfet des Côtes d'Armor, car bien qu'il y ait une majorité de communes touchées par ce permis sur le Morbihan, c'est le préfet des Côtes d'Armor qui en a la responsabilité. Et donc le préfet tentait de nous disait explicitement, mais écoutez, ce n'est qu'un permis d'exploration. Il y avait là un représentant du ministère, un représentant du service des mines. J'ai donc posé la question de savoir, pouvez-vous me donner un exemple, s'il vous plaît, où un permis d'exploration accordé, d'accord, à un permis ensuite d'exploitation ne l'aurait pas été. La réponse était, non, il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu de données, je n'ai pas de mémoire d'un tel fait, ce qui a évidemment posé quelques problèmes au préfet et qui a dû cesser de nous dire qu'il ne s'agissait que d'un permis d'exploration. Sinon, en dehors de ça, nous avons eu des réunions précédemment, avant que le permis soit accordé, cette fois en sous-préfecture de Pontivy, où un représentant de l'entreprise, Verescade Mine, nous a fourni des réponses peu claires et on peut dire fausses même à un certain nombre de questions qui étaient posées, ce qui nous a fait penser tout de suite que la volonté de clarté n'était pas présente.
Est-ce que tout de même, en tant que maire, vous n'avez pas pensé à l'opportunité que ça serait de créer des emplois, de développer l'économie de la commune ?
Oui, bien sûr, ceci est bien sûr quelque chose auquel on peut penser. Mais de fait, il faut bien comprendre que dans la phase d'exploration, il y a essentiellement des travailleurs spécialisés. Il n'en existe pas ici. Ce sont des ingénieurs, des techniciens spécialisés. Pour le reste, si on allait jusqu'à une mine, mais je dis bien dans la phase d'exploration, car une mine d'exploration peut exister, alors je crois que comme dans le BTP, d'accord ? Eh bien, évidemment, une entreprise qui cherche à faire des bénéfices, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ferait appel non pas à la main-d'œuvre locale, mais à des travailleurs détachés, c'est-à-dire que les travailleurs venant de Roumanie ou des choses comme ça, en les payant bien évidemment approximativement au salaire de leur pays. Donc nous n'attendons pas, à part peut-être un tout petit peu pour le commerce local, qu'il y ait des retombées positives. S'il devait y avoir un petit peu de revenus pour la commune, il faut bien comprendre que vu les travaux qui sont faits, ce sont des matériels, des camions, des grues qui sont excessivement lourds et que c'est à notre charge d'entretenir les voies communales. Conséquence, tout ce que nous pouvons espérer, c'est effectivement pouvoir entretenir nos voies communales qui seraient largement dégradées par les véhicules liés aux mines.
Vous avez une idée de ce que ça représenterait comme impact sur le territoire, cette mine ?
Alors écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question.
Tu mines de quoi d'ailleurs ?
Alors, de plusieurs types de matériaux, d'ailleurs pratiquement tous, hormis l'uranium. Ça, il est clair qu'il y a ça. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de gaz de schiste envisagé, car tout simplement, il n'y a pas de gaz de schiste en Bretagne. Si les matériaux recherchés importent relativement peu, ce qui importe, c'est les moyens d'extraction. Et une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce qui concerne l'eau, il n'y a pas réellement de nappe phréatique en Bretagne. Ce sont des failles. C'est-à-dire que si on creuse à un endroit, eh bien, on peut polluer l'eau sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, c'est vraiment un problème très important qui potentiellement existe ici avec des mines. Nous ne sommes pas dans un endroit fait pour des mines, ne serait-ce que pour l'eau.
De quels moyens disposez-vous en votre qualité d'élu pour vous opposer à ça ?
Alors, le seul moyen de s'opposer réellement, vraiment, c'est de réaliser effectivement dans chacune des communes concernées, si possible, un référendum local. Parce que les préfets détestent les référendums locaux, et qu'en l'occurrence, si chacune des communes prenait un référendum local et que le résultat était de façon significative, avec une participation aussi significative pour un non, alors je crois que cela aurait un véritable effet. Je le pense, sincèrement. Maintenant, je ne peux pas garantir que ceci sera réalisé. Mais en tout cas, sur ma commune, je pense que nous le ferons.
Marie-Nicolas, il y a déjà eu des mines en Bretagne?
Oui, il y a eu plusieurs sites de mines. Il y a eu des mines d'exploration qui n'en ont pas été ouvertes, notamment du côté de Lannion. Mais il y a eu un site très très important qui a fonctionné jusqu'en 1987, qui se trouve autour d'Arzanau. Et on parle du site de Roseglace, puisque c'est, disons, le site principal. Ce sont des mines donc, qui avaient des filons riches en uranium, qui ont été donc exploités jusqu'en 1987. Et en 1987, l'entreprise qui gérait ces mines a fermé.
Qui était-ce ? C'était une entreprise française ?
Je crois, oui, c'était l'ANDRA, la COGEMA. Et ils ont simplement démonté les tours des mines et puis mis sous surveillance la mine, mais aucune surveillance radiologique. Et donc, nous avons été alertés il y a environ 6 ans par des cultivateurs maraîchers qui vivaient dans la zone, qui étaient quand même inquiets sur le problème de l'entreposage de rebuts de mines. Et nous sommes allés avec André Paris, qui était dans la région, faire des mesures sur le site de Roseglace et d'autres sites. Et on a découvert des choses assez exceptionnelles, puisque il y avait des chemins de randonnée qui avaient servi d'exor de la mine. C'est-à-dire quand on est dans une mine, il y a de l'eau, et cette eau est pompée et ensuite rejetée. Et le sentier, qui était un sentier, donc un chemin creux, servait d'exor à la mine. Et il y a eu donc des contaminations de l'ordre de 30 ou 40 fois le taux normal, sans aucune indication pour les promeneurs de ne pas rester là pour pique-niquer. Ou il y a eu même, juste à côté de la mine de Roseglace, un terrain de camping où il y a eu des jeunes qui ont campé pendant 3 semaines, donc à même le sol. Or, on sait que l'uranium et donc le radon se dégagent tout le temps.
Mais ça, ces taux de radioactivité que vous évoquez, c'était juste au moment de la fermeture, en 87
ou Non, nous avons fait les mesures en 2010 environ, en 2009-2010, et puis ensuite...
Donc plus de 20 ans plus tard.
Plus de 20 ans. Donc l'association de Roseglace a alerté les pouvoirs publics, et Areva, donc, qui est maintenant l'ensemble des entreprises qui travaillent autour du nucléaire, sont venues faire des mesures et faire un tracé. Et effectivement, ils se sont aperçus que ce qui avait été mesuré par André Paris correspondait à la réalité.
Et donc, du coup, ils ont fait un plan hors sec pour fermer tout et remettre en état ?
Non, absolument pas. Ils ont simplement reçu les responsables des mesures, accompagnés par les gens de la CRIRAD, dont Bruno Charréron, qui était monté donc de Valence, et on leur a indiqué que il faudrait effectivement faire quelque chose, mais pour l'instant rien n'est fait.
Six ans après,
et il y a 2 ans, on a organisé justement une randonnée radioactive en essayant de disposer des panneaux, puisqu'on était en phase touristique, il y a des gens qui viennent faire du tourisme vert. Et bien sûr, il n'y a aucun panneau qui indique qu'il ne faut pas stationner, qu'il y a des zones de rebut qui sont juste à côté de la route. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de mesure. Et ce qui nous a aussi alerté, c'est que dans une propriété, il y avait de l'eau qui circule dans cette propriété et le monsieur arrosait son jardin. Et on a une très forte contamination. Et le monsieur est mort d'un cancer du rein. Donc on peut aussi penser qu'il y a eu des contaminations de personnes. Les pouvoirs publics, les mairies, ont affiché, simplement, dire qu'il y a eu des rebuts qui ont été stationnés. Mais personne ne veut venir dire que sa maison est située sur un rebut, parce qu'elle sera invendable. Enfin, je veux dire qu'il n'y a absolument pas de mesure coercitive pour les gens de dire ben, « moi, je veux démolir le mur parce que j'avais pris les gravats de la mine pour construire mon mur ou étayer ma route ». Et il y a même, ça c'est pour la petite histoire, un endroit où le terrain de boules des personnes du troisième âge est remblayé par, gratuitement par des remblais de radioactifs. Voilà. Alors ça c'est, je pense, quand même une vingtaine de spots au niveau donc d'Arzano. Et là, jusqu'en 2018, c'est sous la responsabilité d'Areva. Ensuite, ça tombera sous la responsabilité des communes. Donc, on a essayé de dire aux communes qu'il fallait peut-être s'inquiéter de savoir si, après 2018, ils n'auront pas le travail à faire. Nous, ce que nous demandons, c'est sur les gros spots de rebut, c'est qu'il y ait du grillage qui soit mis, avec un panneau en disant « ne pas stationner avant que ce soit nettoyé ».
Julien Dupoux, géant du Vieux-Sart, vous faites partie également du collectif Stop Mine 23. J'aimerais peut-être que d'une manière un peu plus globale, vous me parliez de l'ensemble des projets qui se sont ouverts en France, parce qu'on a l'impression, à écouter les uns et les autres, qu'en quelques années, c'est un phénomène qui a pris une ampleur inédite. Julien Dupoux ?
C'est pas une impression, hein. C'est en quelques années, ça, pour une ampleur inédite, oui. Nous, on est vers les premiers. Je crois qu'il y a suite Sarthe avant, nous. Et donc, nous, on est l'un des premiers permis d'exploitation pour l'or qui a été relancé. Donc, c'est une politique nationale, hein. Arnaud Montebourg l'avait dit, relance de l'exploitation minière, de l'or en particulier. Quand on regarde les permis, il y a aussi d'autres métaux. Et en particulier les métaux plus rares, genre tungstène, les trucs comme ça, ou antimoine en l'occurrence. Et donc oui, c'est bien, ils ont déposé des permis petit à petit, donc en Creuse, et il y en a eu beaucoup en Bretagne aussi, et en Mayenne il y en a eu un aussi, et il y en a eu d'autres, alors je ne les connais pas tous, et au moins ceux-là.
Dans toute la France ?
Ah ben, je pense que ça dépend un peu de la nature du sol. Donc, eux, ils cherchent sur toute la France, mais ils les posent là où il y a de l'or, quoi. Donc, c'est plutôt, je pense, c'est plutôt les sols granitiques, comme Bretagne, Massif Central, c'est un peu même type de sol.
Une dizaine de projets aujourd'hui.
Bah, je pourrais pas les certifier exactement. J'ai pas la liste en tête, mais oui, il y en a à chaque fois en Haute-Vienne. Là, il y en a eu un récemment, une demande de permis. Donc souvent, on en voit un autre qui apparaît.
Oui, il y en a eu en Ariège, là aussi, tout récemment, oui. Sur le site de Salo, qui est en fait une mine qui a été exploitée par le passé et sur laquelle les prospecteurs reviennent, quoi. Donc il y a aussi cet élément-là du retour sur des anciens sites donc, qui sont déjà bien connus. Et on peut imaginer qu'avec des méthodes... plus moderne, on va dire, les miniers arriveraient à prolonger ces recherches plus loin, quoi. Et donc nous, ici en Creuse, on est très inquiets, évidemment, parce qu'on a un grand, grand passé minier, en fait. Il y a énormément de puits qui étaient donc des puits artisanaux dont on a encore connaissance aujourd'hui, qui datent du 19e siècle. Et plus récemment, début 20e siècle, il y a la mine du Châtelet, donc, qui s'est ouverte à Budelière en 1905, qui a été exploitée donc de façon déjà beaucoup plus industrielle pendant 50 ans, de laquelle on a retiré 14 tonnes d'or. Et aujourd'hui, on a sur les bras 550 000 tonnes de stérile minier qui sont là en bordure de rivière, en bordure de la Tarde, et qui continuent à cracher de l'arsenic qu'on retrouve notamment au fond du barrage de Rochebu, donc situé juste quelques kilomètres en aval de cette ancienne mine. Enfin, on dit ancienne mine, mais finalement, quelque part, ça reste toujours une mine. Et voilà, donc c'est de l'eau contaminée, de l'eau qui en plus doit être traitée derrière pour alimenter la ville de Montluçon, toute proche sur le département de l'Allier. Et pour rester donc toujours sur ce site du Châtelet, on a été très étonnés, donc, au niveau du collectif, de se rendre compte, début 2015, en janvier 2015, il y a le BRGM qui avait en main la concession sur cette ancienne mine du Châtelet, n'a pas renouvelé cette, enfin, ils ont même renoncé à cette concession, et en fait, ils y avaient droit jusqu'en 2041, et là, tout début 2015, ils ont renoncé à cette concession, ce qui fait qu'aujourd'hui, le site du Châtelet pourrait être une proie pour une entreprise privée qui souhaiterait s'y implanter.
C'est vrai que ce qui est assez mystérieux, c'est le fait que toutes ces mines, après avoir fonctionné parfois pendant plusieurs décennies, ont été fermées. On les a fermées, j'imagine, parce qu'on estimait qu'on avait épuisé le filon. Et aujourd'hui, on revient. Non, Julien Dupont, vous n'êtes pas d'accord.
Alors, on a épuisé une partie du filon, mais comme au Châtelet, il en restait. Donc tous les vieux vous disent, il en restait, ça aurait pu tourner encore un moment. Mais c'est surtout que par rapport au cours de l'or, ça valait plus le coup. Et ici, c'est vraiment par rapport au cours de l'or qui maintenant, ils se disent, ah, ça vaut peut-être le coup, donc on va prendre des permis. Parce que là, il y a la moyenne sur... alors au Châtelet, ce qu'ils avaient exploité avant, c'était de l'ordre de 24 grammes par tonne à peu près. Et ici, pour comparer la moyenne, ça serait 4-5 grammes par tonne sur le périmètre.
Est vraiment en train de grappiller des miettes, quoi.
Voilà, et donc par tonne, ça veut dire on extrait une tonne de cailloux pour avoir 4-5 grammes d'or. Hein.
Et le reste, c'est les fameux stériles miniers que Jehan du Vieux-Sart évoque.
Oui, en général, le reste, c'est du caillou broyé. C'est là aussi, c'est l'arsenic. Une fois qu'on l'a broyé, c'est là qu'il passe partout après.
Alors, autre chose qui a changé, peut-être, c'est que tous ces projets, aujourd'hui, soulèvent beaucoup de résistance. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Les mines étaient plutôt bien acceptées dans les sociétés, les paysages. Aujourd'hui, il y a une levée de bouclier immédiate et qui se fait un petit peu partout. On peut dire que cet extractivisme minier, il a été précédé de très peu, mais précédé tout de même par les projets qui concernaient le gaz de schiste. Ça a démarré comme ça et ça a fait une flambée de refus qui a pris tout le monde de court et qui a un petit peu freiné l'enthousiasme des promoteurs. Est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire dans la lignée de ce mouvement contre le gaz de schiste? Est-ce que vous en avez appris quelque chose, ou bien est-ce que vous avez fait vos propres armes de votre côté? Julien Dupont.
Moi, je dirais qu'on a plutôt fait nos propres armes, parce que nous, vraiment, on est parti de zéro. Là, l'équipe, c'était des gens du coin, quoi, qui connaissaient pas grand-chose, qui étaient pas forcément militants. Donc, ils se sont allés gratter petit à petit, puis chacun un peu gratté de son côté. Acquiert un peu des compétences aussi sur le sujet, même juridiquement, biologiquement, et compagnie, quoi. Donc, c'est presque de l'auto-formation, là. Après, les gaz de schiste, on a des contacts, parce qu'ils sont venus au festival, par exemple.
Quel festival?
Nominland, qui a eu lieu l'été dernier. C'est à peu près vers la date du 22 juillet, qui est la date internationale contre ces projets d'extraction. Donc oui, on a des contacts, mais après, on n'a pas copié un modèle pour le reprendre, quoi. Ou on s'est pas inspiré.
C'était pas dans ce sens-là que voilà. Je le disais, hein.
Non, mais voilà. Donc on peut pas dire qu'on s'est inspiré ni qu'on a. Non, on a vraiment fait les choses tout seul. Et c'est après, une fois qu'on a démarré, qu'on commence à s'inspirer, parce que on s'inscrit après dans ces mouvements contre les grands projets inutiles, je dirais plus. Que compte spécialement contre les choses à extraire, parce que pour moi, si Vince, c'est un barrage, c'est à peu près du même type, quoi. C'est dans le genre de projet débile. En plus, les financements sont bizarres, voilà. Ou Notre-Dame-des-Landes, c'est ce genre de projet qu'on comprend pas, quoi. Ça porte rien au pays. Pour moi, c'est de la colonisation, quoi. On attend le bon Dieu industriel avec ses emplois qui viendrait sauver le pays. Ben voilà, on peut faire sans lui, hein, désolé, on a toujours fait sans lui, on peut faire sans lui.
Mais sinon, par rapport à l'évolution du collectif donc, qui a démarré il y a maintenant plus de 2 ans, vu que ce projet nous est un peu tombé dessus fin 2013, au départ, le collectif était quand même composé d'un public qui pourraient apparaître un peu comme écolo babacool ou enfin des gens quand même assez militants et qui avaient quand même fort envie d'y aller quoi, et quelque part ça a un petit peu causé du tort quand même à la lutte aussi au départ, parce que ça nous a coupé d'une certaine partie de la population plus locale, plus ancrée localement, et on a eu quand même des moments difficiles de dialogue à ce niveau-là. Et donc depuis, avec aussi l'implication de nouvelles personnes dans le collectif, avec la constitution quand même d'un noyau là qui se voit régulièrement depuis 2 ans, on a beaucoup quand même avancé là-dessus, et on arrive à gagner en crédibilité localement. Et je pense que ça c'est vraiment la voie qu'il faut continuer à suivre.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est important que la lutte soit effectivement locale, justement. C'est-à-dire, c'est un peu à l'inverse de la critique qui est souvent faite à ce type de lutte, les nimbistes trop localiers. Vous, au contraire, vous recherchez cet ancrage, ce qui... Non ?
Il y a les deux aspects. Je pense qu'il faut un ancrage local. En même temps, il faut évidemment s'inscrire dans une lutte globale, parce que ce sont des phénomènes globaux face auxquels on est confronté. Et donc... Il y a ce volet local de sensibilisation, d'information, de...
Mais qui apporte quoi, exactement ?
Qui apporte qu'on est de plus en plus nombreux à se mobiliser, à se montrer, quoi, et à s'exprimer sur le sujet. Ensuite, il y a également toute une série de contacts qui sont pris avec les autres collectifs qui sont confrontés, donc, de nouveau dans leur local, à ces mêmes problématiques, donc que ça soit en Bretagne, en Haute-Vienne, là on est en train, en fait il y a un projet donc qui est tombé, un PER tout récent là qui démarre juste à côté de Limoges, et il y a un collectif là-bas qui a pris contact tout de suite avec nous et qu'on parraine en quelque sorte, parce que ils sont vraiment tout au début du projet, donc il y a des choses que nous on s'est rendu compte qu'on a loupé, notamment au niveau juridique, dont on leur a fait part et dont ils vont peut-être pouvoir se saisir.
Julien Dupoux ?
Oui, moi je pense la même chose. Hein. On est local parce que les réunions d'information publique, on ne va pas aller les faire à Paris ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment là, on est sur le terrain. Il faut être sur le terrain, moi je pense. Moi je dis, si c'est pour qu'ils ne le fassent pas chez nous, mais qu'ils le fassent partout ailleurs, est-ce qu'on aura vraiment gagné ? Et tant mieux qu'il y ait des résistances un peu partout.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et des liens vers quelques-unes des associations qui luttent contre les projets de mines. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Stéphane Lémon, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.